Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
Ça rentre dedans de voir les photos des enfants victimes de cette tuerie au Texas, à la une du Journal de Montréal. 10 ans, 10 ans, 10 ans, 11 ans, 8 ans, ça n'a aucun bon sens. Et parce qu'ils sont allés à l'école, pas dans des bars, pas dans des quartiers malfamés, à l'école, bordel. Et là, il y a des commentateurs qui sont à Fox News, des commentateurs républicains qui disent, ben oui, mais ils ont rien qu'à armer les professeurs. Est-ce que vous avez entendu hier Philippe-Vincent Foisy qui interviewait une Québécoise qui vit au Texas, pis a dit, ben, et Philippe-Vincent lui a demandé, est-ce que vous avez une arme à feu? Ben, elle dit, ben oui, mais on n'a pas le choix. Il y a tellement de gens qui ont des armes à feu, tout le monde est armé, que nous autres, ben, on n'a pas le choix de s'armer pour se protéger de ces gens-là. C'est un cercle vicieux. Puis effectivement, elle dit, moi, est-ce que je suis pro-arme à feu? Non. Mais j'ai pas le choix. Il faut que tu sois armé, parce que si eux autres pètent un plomb et rentrent chez toi avec une arme à feu, ben, il faut que tu puisses te défendre. Et là, c'est rendu que la solution proposée par certains, c'est d'avoir des professeurs armés. Et j'ai vu un mime passer sur les médias sociaux où tu vois une classe aux États-Unis et le professeur, ben c'est un soldat qui était en kaki là, tout ça là, et avec une arme à feu, avec une mitraillette dans les mains. Et c'est spécial de voir que les républicains, on dirait que pour les républicains, la vie, elle est importante seulement avant la naissance. Avant la naissance, la vie est importante, il faut la protéger. Un fœtus de 3 mois, c'est épouvantable, faut pas le tuer, mais une fois que t'es sorti du ventre de ta mère, on s'entorche. Donc, un être humain que, je sais pas, 10 ans, tiens, 10 ans, c'est 120 mois, ça, 10 ans, c'est ça? Un être humain qui a 120 mois, ah, ça, il n'y a pas de problème. Un fœtus qui a 3 mois, ça, c'est épouvantable. On va rejoindre Richard Latendresse, qui est justement là-bas sur les lieux. Bonjour, Richard.
Bonjour, Richard.
Écoute, t'as vu des gens certainement pleurer, t'as vu des gens certainement prier, des gens qui étaient choqués. J'espère, Richard, que t'as aussi rencontré des gens qui étaient en colère.
Ah oui, et des gens en colère, il y en a peut-être davantage encore que les gens qui pleurent, parce que les gens qui pleurent se cachent là, aujourd'hui. Il y a des gens qui sont bouleversés, là, qui sont éloignés des enfants qui ont été tués. Mais les gens en colère, là, sont des gens qui se disent, bon, il y a deux grands phares ce matin, Richard, je les donne rapidement, je les montre rapidement, c'est qu'il semblerait que les policiers ont attendu avant de prendre d'assaut l'école, alors que le tireur y était entré. Avant d'entrer dans cette école, Rob, là, élémentaire de Uvalde, au Texas, il a d'abord tiré sur 2 personnes qui se trouvaient là, à l'extérieur. Et puis après ça, il est entré dans l'école. Donc, le signal avait été envoyé, mais les policiers ont entendu, et les gens les suppliaient de faire quelque chose, et ils ne faisaient rien. Ce qui a fait qu'il a été, c'est pas tout à fait clair, entre 40 minutes et une heure à l'intérieur pour commettre ce massacre-là. Et selon nos collègues de l'Associated Press, Richard, écoute bien, là, les policiers, l'unité tactique qui était entrée, n'étaient pas capables de défoncer la porte. Donc, on a dû demander à un employé de l'école de venir avec sa clé et puis ouvrir la porte.
Voyons donc.
Dans un deuxième temps, les gens sont estomaqués, et puis là, ça va à la colère, de savoir, quand tu vois le rythme avec lequel ce jeune s'est armé. Le lendemain de ses 18 ans, Richard, il s'est acheté cet AR-15, ce fusil d'assaut-là. Le surlendemain, 375 balles. Une deuxième arme, le 20 mai, 72 heures après avoir acheté la première. Moi, je dis souvent, tu sais comment c'est tordu en Virginie, on peut acheter une arme par mois, 12 par année. Ben, il s'est fait 72 heures après la première, et puis 4 jours plus tard, il provoquait le massacre. Alors, les gens disent, non, quelque chose qui ne fonctionne pas. Non seulement, il n'avait que 18 ans, il n'avait même pas encore l'âge de consommer de l'alcool, mais il a acheté 2 armes dans le temps de le dire parce qu'il venait tout juste d'avoir 18 ans.
C'est hallucinant, là. Il n'avait pas le droit de consommer de l'alcool, mais il avait le droit d'acheter 2 armes d'assaut comme ça. Ça n'a aucun sens. Et les gens doivent être en colère aussi de savoir que c'est vendredi, ça, c'est une coïncidence, mais c'est le congrès national de la NRA, et de voir que Donald Trump et Ted Cruz ont participé malgré tout ça.
En fait, ce qu'on se pose comme question, c'est est-ce que c'est pas manqué de savoir-vivre dans une certaine mesure, non seulement Donald Trump, le gouverneur aussi, Greg Abbott, qui vont tous les deux prononcer des discours à ce congrès du grand lobby des armes qui va se tenir à Houston. Il y a des appels pour dire, je pense que vous devriez annuler votre participation, laissez-les faire leur grand power militaire, leur grand power de d'admiration devant les armes à feu, là. Mais bon, tu sais, ici, là, je veux être franc avec toi, faut aller jusqu'au bout de notre réflexion, Richard. Les Texans, il y a une relation complexe avec les armes à feu, là, parce que tu sais, dans un sens, l'idée qu'on puisse massacrer des enfants de cette façon-là, ça bouleverse profondément les communautés. Mais lorsqu'on dit là, il faudrait mieux encadrer la circulation des enfants, les gens disent non, je te donne juste l'exemple d'adolescentes à laquelle je parlais, des filles de 17 ans qui étaient venues porter des fleurs, qui me disaient, encore une fois, on comprend pas. J'ai 17 ans, je vais avoir bientôt 18 ans, je peux pas imaginer savoir comment gérer une arme, tu sais, moralement, prendre des décisions, etc. Et lorsque je leur dis, vos familles, et puis en plus, elles ajoutaient, c'est tellement tranquille ici, on est tellement calme, on est tellement gentil entre nous. Là, je dis, mais est-ce que vos parents sont armés? Et elles me répondent, ben oui, naturellement. Tu sais, comme si c'était normal, dans une communauté calme, tranquille, qui s'aime, de s'armer, parce qu'on sait jamais. Alors, tu sais, je veux dire, c'est assez particulier, cette relation que les Texans ont avec leurs armes et l'attachement qu'ils ont comme un peu partout, là, tous ceux qui défendent le deuxième amendement de la Constitution,
oui,
qui permet le droit de l'arme.
Et j'ai lu qu'au Texas, on a changé la loi, puis on a encore facilité l'accès aux armes à feu. Tu n'as même pas besoin d'avoir un permis ou de suivre un entraînement. Tu peux littéralement, c'est aussi facile d'acheter une arme à feu qu'un paquet de gomme, quasiment. Est-ce que toi, tu en as vu des gens se promener dans la rue avec des armes depuis le temps que tu es aux États-Unis, toi?
Oui, moi j'en vois très souvent, là. Ça, c'est un classique de voir des gens le port ouvert, comme on dit en anglais, là, tu sais, les gens qui se promènent avec un revolver à la taille comme les cowboys, là, mais pas un gun de cowboy, mais tu peux voir l'image. Tu sais, ce qui est particulier, ce que tu évoques au Texas, c'est que le gouverneur Greg Abbott, l'année dernière, finalement s'est débarrassé des dernières restrictions au port d'armes, parce que sur sa droite, là, au sein du Parti républicain, il était défié par des gens qui voulaient son poste, qui voulaient l'amener, le défier en primaire et essayer de prendre sa place pour le poste de gouverneur, parce qu'on le trouvait trop strict. Alors tu vois, lui, il était considéré comme trop soft à l'égard
c'est
des armes
incroyable.
À feu. Imagine. Et puis, il s'est débarrassé des restrictions. Imagine si les autres qui étaient arrivés, ça a été encore pire. Donc, c'est une réalité, encore une fois, là, ce sont des États bien particuliers qui permettent le port d'armes de cette façon-là. Dans le Nord-Est, par exemple, les États qu'on connaît bien, nous autres, l'État de New York, l'État du Connecticut, du Massachusetts, on le fait pas de la même façon, hein. Mais la pression est forte parce que, tu me permets, Richard, tu faisais un lien un peu plus tôt avec l'obsession que les républicains ont avec la protection de la vie dès la conception.
Oui.
C'est un peu la même chose par rapport au droit au port d'armes. Le droit de port d'armes, là, tu sais, on le défend là envers et contre tout, mais le droit qui était confirmé dans la Constitution à l'avortement, que des États confirment chacun chez eux, c'est pas un droit là aussi indélébile, aussi incontestable que celui au port d'armes. Chacun a une façon de voir son droit comme étant prioritaire par rapport aux autres.
Oui, c'est drôle, hein? Et c'est très important, la vie humaine, quand c'est à l'intérieur du ventre de la mère, mais une fois qu'ils sont sortis, dans une école, on dirait que c'est moins important. On voit, bon, les enfants, beaucoup de noms hispanophones là-dedans, donc les gens qui ne vivent pas aux États-Unis comme toi, on a tendance à dire, ben les hispanophones, en général, ils doivent voter démocrate. Donc, c'est certain qu'ils sont beaucoup moins pro-gun que peut-être les Américains de souche. Et donc, ça doit encore plus les choquer. Est-ce que c'est une bonne analyse, ça, ou non?
C'est une analyse qui change, malheureusement, Richard. Tu vois, les Latino-Américains, ici, on l'a vu à la dernière élection présidentielle, dans le Texas, c'est le cas, les démocrates s'attendaient à faire des gains spectaculaires, puis finalement, on s'aperçoit que les Latinos, les hommes d'un certain âge, se rangent de plus en plus du côté des républicains, s'arment aussi eux autres de leur côté. Dans la communauté de Duvalde, ici, là, ce qui est particulier, c'est que cette école se trouve dans un quartier, Richard, peu fortuné, puis je dirais même défavorisé dans une certaine mesure. Donc, une école 90% latino-américaine. On voit que les gens, je me demande s'ils ont les moyens tout simplement d'acheter des armes. Là, tu vois, ils sont pas très, très fortunés encore une fois. Mais ailleurs dans le Texas, c'est assez partagé. Là, les victimes sont latino-américaines, mais c'est assez partagé l'envie de s'armer, de posséder une arme et tout ça. Alors, ça développe, c'est contagieux, ça semble être contagieux, cette réalité-là, Richard. Au départ, c'était les hommes blancs qui étaient obsédés par l'idée. Ils ont contaminé leurs femmes blanches et puis par la suite, là maintenant, les autres communautés, les Latinos en particulier, qui suivent ce trajet-là. Au Texas, c'est ce qu'on remarque en tout cas.
Et en terminant, ça fait combien de temps que tu vis aux États-Unis, Richard?
Ça va faire 16 ans cet été.
16 ans. Est-ce que tu étais là à l'époque de Sandy Hook?
Ah oui, absolument. Moi, j'ai fait la première, la première grande affectation ici, là, c'était la tuerie de Virginia Tech. Il y avait 32 morts dans une école. Tu te souviens de cette histoire?
Oui, ben oui.
Pour l'auditeur, là, on n'a pas le temps d'entendre mes récits de campagne, mais tu sais, c'était à Blacksburg, Virginia Tech, l'université. Un jeune entre dans un bâtiment de l'université, barre les portes et tue 32 élèves comme ça. On n'en parle même plus aujourd'hui. Pourtant, c'était un massacre qui avait marqué les Américains à ce moment-là. Mais il y en a tellement d'autres. J'étais là, j'étais sur place à Newtown lorsque Sandy Hook, pour couvrir la tuerie de Sandy Hook. Et à cette époque-là, moi, ça m'avait arraché le cœur. Franchement, je te le dis très honnêtement, je me disais, là, ça va changer, les choses vont bouger, on peut pas laisser 20 enfants. Tu sais, des enfants qui avaient 6 ans, 7 ans, Richard, tu sais, je pouvais pas comprendre ça. Ben, 15 ans plus tard, là,
ça même 10
ans, ça faire 10 ans en décembre, il y a rien qui a bougé, rien. Alors, quand on me dit, là, ça va être sérieux, là,
ben,
vraiment,
oui.
19 enfants dans une école, malheureusement, je le dis parce que je trouve ça déprimant à l'avouer, mais je peux pas voir que ça va réussir à convaincre ceux qui, les républicains en particulier, il y a des démocrates dans ça, qui hésitent toujours à mieux contrôler la circulation.
Tu as des enfants, Richard? Tu as des enfants?
J'en ai 3, moi, effectivement.
Écoute, Daniel Pilon, le comédien, là, on connaît les frères Pilon, là, au Québec. Daniel Pilon avait une carrière aux États-Unis. Il jouait dans un soap et ça fonctionnait très bien. Et lorsque ses enfants étaient rendus à un certain âge, il a décidé de revenir au Québec parce qu'il dit, moi, je refuse d'élever mes enfants aux États-Unis parce que je trouve ça trop dangereux. Toi, est-ce que ça t'inquiète des fois?
Ça m'inquiète des fois parce que je me dis, tu sais, c'est comme, tu vois, c'est des pop-ups de violence constamment qui apparaissent. Tu sais, bon, je dois quand même te dire, Richard, que, et tu connais la société américaine aussi, c'est une société qui est très, très dynamique, beaucoup d'énergie. Tu sais, je dis souvent, là, il y a 330 millions d'Américains. Mettons qu'il y en a 230 millions de caves. Il y a quand même 100 millions d'Américains qui ont du bon sens.
Oui.
Et ces 100 millions-là, ils méritent qu'on vive avec eux autres.
Tout à fait. On va se laisser là-dessus. Fais attention à toi. Merci beaucoup. On va t'écouter, bien sûr, à TVA LCN. Salut, Richard.